Pardon. On était en train de voir depuis une semaine ou deux comment désamorcer cette mine de l'insécurité. Et on avait parlé on avait plusieurs étapes. La première était de demander à Dieu de nous révéler l'insécurité qui pourrait se trouver en nous. Et quand il le fait, de le confesser, pas de l'excuser, pas de faire comme si ce n'était pas là. C'est pas la peine de lui demander de sonder notre cœur si on n'est pas prêt à accepter ce qu'il a à nous dire. Après, on a dit de la deuxième étape, le fait de reconnaître le problème, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut réaliser et accepter que Dieu peut nous donner la victoire. Pour l'insécurité, mais pour d'autres aussi, les d'autres pièges, d'autres péchés. Surtout si c'est un péché ou une difficulté qu'on lutte depuis des années, des années, des années, Satan peut nous faire croire à ce mensonge que on n'y arrivera jamais, qu'on ne pourra jamais avoir la victoire là-dessus. Donc il faut qu'on accepte que Dieu en est capable, que Dieu peut nous aider à vaincre cela. Ensuite, la troisième étape était d'accepter de croire que Dieu puisse nous aider, c'est bien, mais qu'il faut ensuite vouloir nous-mêmes vaincre cette insécurité. D'admettre, de le confesser, de reconnaître que Dieu peut, c'est bien, mais Dieu ne va pas tout faire pour nous non plus. Et il y aura une part qui dépendra de notre obéissance, notre soumission, de notre foi, etc. Et on avait terminé la semaine dernière sur le quatrième point qui était que si on veut que quelque chose change, ben, il faut que on ne continue pas comme avant. Et il faut que on accepte changement. Et ça paraît logique et bête de le dire, mais le fait est, en tant qu'être humain, on n'aime pas les changements. Si on est dans une routine et ça fait, comme on a dit, des années que nous luttons contre ce péché, contre ces difficultés, ben, ça veut dire que on est bien ancré dans une certaine routine qui nous encourage également à continuer dans ce chemin. Et de faire un changement va faire de changer des habitudes, de changer des façons de penser, changer des différentes choses. Et ça, on n'aime pas. Et on va lutter contre le changement. Mais il faut au contraire accepter de ne pas continuer à faire les choses comme avant si on veut que les choses changent. Et on s'était arrêté avec cette note un peu plus positive. Du fait qu'il faut se rappeler que quand Dieu nous a créés, oui, nous avons des faiblesses, on n'est pas parfait, on a des qualités différentes des uns et des autres. Souvent, beaucoup de personnes aimeraient avoir des qualités qu'ils n'ont pas, et d'autres aimeraient avoir les qualités qu'ils voient en nous, mais que Dieu ne s'est pas trompé quand il nous a créés. Quand il nous a créés tels que nous sommes, il nous a donné des capacités, des qualités, des dons, et pour lutter contre cette insécurité, il faut reconnaître que Dieu peut nous utiliser pour faire de bonnes choses telles que nous sommes. Et ensuite, là, on continue à la page 32, la cinquième chose, cinquième étape à faire pour nous aider à surmonter cette insécurité. Je crois que Suzanne l'avait mentionné il y a soit la semaine dernière ou je crois que c'était la semaine d'avant, le fait qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Quand on essaye de changer, il nous est facile de vouloir nous comparer à quelqu'un qu'on considérait être plus ou moins semblable et il faut éviter de faire cette erreur. Dieu ne nous demande pas de nous comparer aux uns aux autres, mais de nous comparer. J'ai même pas envie de dire à lui, parce qu'on sait qu'il est tellement au-dessus de nous, mais de nous comparer à sa volonté, à ses désirs. Ce n'est pas la façon qu'on est comparé aux autres qui nous rend juste, c'est notre position en Christ qui nous rend juste. Et ça, elle est pareille pour tout le monde. Ma position en Christ, elle est pareille que n'importe quelle autre personne qui a accepté Christ pour son salut. Peu importe son passé, peu importe ses qualités, peu importe ses défauts. Et je dois être rapide à vouloir aider mon prochain, encourager mon prochain, même celui que je trouve être tellement meilleur que moi ou tellement de choses. de ne revenir à l'autre mine, de ne pas être jaloux, mais de vouloir même l'aider et pas dire, pas penser, bah, il fait tellement de choses bien, mieux que moi, qu'il n'a pas besoin de mon aide. Non, on est, la Bible, je ne sais même pas le nombre de fois que la Bible utilise le terme que nous sommes serviteurs les uns des autres. Pas juste serviteurs des personnes qu'on pense être plus faibles que nous, ou moins bien que nous. Serviteurs, point final. Et je dois être rapide à vouloir aider et à encourager mon prochain, même donner des compliments envers mon prochain. Celui qui lutte avec l'insécurité aime recevoir les compliments. Mais nous serait bien, au lieu de regarder vers les autres pour les recevoir, de regarder ce que font les autres pour pouvoir les donner. Je ne dis pas de flatter, c'est pas pareil. Donner un compliment, c'est de donner quelque chose qui est vrai, qui est juste, sans exagérer, sans élever la personne, mais de montrer qu'on apprécie le travail que cette personne a fait. Ce n'est pas la même chose. Et toutes ces choses sont des choses difficiles à faire quand je suis moi-même dans l'insécurité. Ou si je suis en train de me comparer à ces mêmes personnes. Si je suis en train de me comparer à cette personne, je ne vais pas avoir envie de lui donner des compliments ou de l'encourager ou de l'aider. Parce que je me compare. Et quand je me compare, je vais le faire de façon à, comment dire, ça va être, c'est pas une bataille, c'est trop fort, mais c'est moi contre lui. Il faut que je me compare à lui pour que je sois meilleur que lui. Et ou que j'arrive au moins à être à son niveau si je le considère comme plus apte que moi. Une compétition, oui, c'est plutôt le mot que je cherchais. Que bataille ou lutte. Mais c'est au lieu de voir l'autre pour ce qu'il est, un serviteur de Dieu comme moi, c'est je suis en compétition contre cette personne. Quand on est en compétition contre quelqu'un, on ne va pas avoir ce sentiment automatique de vouloir l'aider à gagner, l'aider et l'encourager, et etc. Mais quand on se compare à quelqu'un d'autre, généralement, on le fait parce qu'on porte un jugement sur cette personne. Soit en bien ou en mal, peu importe. Mais généralement, on se porte un jugement contre nous. On se sent inférieur à la personne avec qui on se compare. Ou un jugement contre l'autre parce qu'on se sent supérieur à la personne avec qui on se compare. Mais il est très difficile de se comparer à quelqu'un sans porter un jugement envers l'un ou l'autre, ou parfois les deux. Le jeu de se comparer les uns les autres, c'est un jeu très dangereux qu'il faut éviter. Il est toujours préférable de se remettre en question, et si on veut se comparer, comme on l'a dit, de se comparer à la parole de Dieu, de se comparer à la volonté de Dieu dans sa vie, et d'en accepter les résultats. Parce que si on se compare à ce que Dieu veut, il nous dit, tu n'es pas en train de faire ce que je veux, il faut qu'on accepte ces résultats. Dans ce cas, il faut que je change. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui doit changer, ce n'est pas ses lois qui doivent changer, c'est moi. Et quand on se compare rien que nous et la parole de Dieu, bah, il est beaucoup plus facile d'accepter le fait que nous sommes coupables, au lieu de blâmer les autres ou essayer d'excuser notre désobéissance. Parce que normalement, on est chrétien, on est sauvé, on sait qu'il est inutile d'essayer de blâmer Dieu. Que ce n'est pas Dieu qui a tort, ce n'est pas Dieu qui est trop dur, ce n'est pas Dieu qui ne comprend pas ma situation. Toutes ces choses qu'on se dit les uns aux autres, on ne peut pas le dire à Dieu et on le sait bien. Donc, ne pas se comparer aux autres. Et la dernière étape, c'est de se récompenser quand on fait ce qui est bien. Comment ça? Ben oui, je sais, ça pourrait sembler bizarre de dire ça. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre dans une étude biblique. De se donner des compliments à soi-même. Mais c'est même vraiment pas de se donner des compliments, mais de se récompenser. C'est pas pareil. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en train de parler spécifiquement de l'insécurité. Et de quelqu'un qui lutte avec le fait de croire qu'il ou elle soit capable de faire quelque chose de bien. Quelqu'un qui lutte avec l'insécurité ne pense pas qu'il peut. Et cette personne va penser qu'elle est inapte, qu'elle n'est pas capable. Donc, de ce fait, pour nous aider à penser différemment de nous-mêmes, non seulement devons-nous voir les bonnes choses que Dieu nous a aidés à faire, mais pour marquer le coup, entre guillemets, oui, on se félicite. Si Suzanne dirait aux enfants de petits bilingues, kiss your brain. Mais pour nous, du moins, on va dire, on peut prier. Dire à Dieu, merci de nous avoir aidés à mener ce projet jusqu'au bout, par exemple. C'est pas qu'on est en train de s'élever en se félicitant, mais on est en train d'admettre, Seigneur, tu as permis à moi de faire quelque chose de bien. Et de ne pas dire, ouais, de continuer dans ce sens qu'on avait avant, de se morfondre, de. Oh, j'imagine que ça aurait pu être mieux. Quelqu'un d'autre l'aurait mieux fait. Non, on est allé au bout, on a terminé ce que Dieu a demandé, ce qu'on fasse, c'est fait. Dire, Seigneur, merci, tu m'as aidé à finir quelque chose, à accomplir ce que tu m'as demandé de faire. Et de dire à Dieu, merci de nous avoir aidé à mener ce projet comme il l'a demandé, de le remercier de nous avoir utilisé, nous, pour faire telle ou telle chose, et non de dire. Pas assez bien, je demanderai à quelqu'un d'autre. Mais Dieu m'a demandé à moi de le faire. Et Dieu m'a aidé à accomplir ceci ou cela. Et donc, même si de se féliciter ou de se récompenser, c'est d'admettre, même si ce n'est qu'entre nous et Dieu, je réalise, Seigneur, tu m'as utilisé pour faire quelque chose de bien. Mais si on ne. De ne pas le faire, on laisse passer cette vérité sans y penser et on a plus apte à continuer à penser toutes ces pensées négatives que nous avions avant. C'est quand on y pense, on luttait avec cette insécurité, cette mine qui se trouvait encore sur notre chemin, mais cette fois-ci, nous avons laissé Dieu nous aider. Nous avons placé notre foi en lui. Nous n'avons pas dit, non Seigneur, pas moi, mais quelqu'un d'autre. Et Dieu nous a donné, si on a pu achever cette chose, oui, une belle victoire. Ce n'était pas terrasser un géant, ce n'était peut-être pas faire tomber les murs autour d'une ville, mais c'était un pas en avant quand même. Il n'y a pas de mal à prendre le temps de se réjouir de cette victoire, tout en réalisant que Dieu vous a utilisé, pas quelqu'un d'autre, pour cette victoire. Cette fois-ci, au moins pour ce cas-là, cette mine de l'insécurité a été désamorcée. Si ce n'est rien pour ça, merci Seigneur. Tu m'as aidé à finir quelque chose, à accomplir quelque chose. Le fait de prendre le temps de se réjouir et de, oui, entre guillemets, célébrer, on va pas envoyer des cartes d'invitation pour venir et faire une fête, hein, mais de se réjouir entre nous et Dieu, ça nous aidera à ce que la prochaine fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, et que cette mine de l'insécurité se trouve entre nous et l'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire, on pourra se rappeler de la façon qu'on a pu se réjouir entre nous et Dieu, pour nous encourager à contourner cette mine et d'obéir une fois de plus. Et le plus que nous aurons des occasions de nous réjouir avec Dieu pour la victoire qu'il nous a donnée, le plus qu'on réalisera que notre insécurité est basée sur nous, notre personne. Alors que on sait bien qu'on aurait dû se focaliser sur la personne de Dieu. Alors, si je ne doute pas de la parole de Dieu, si je ne doute pas de ses promesses, alors comment puis-je également douter de ce qu'il veut faire en moi, avec moi ou à travers moi? Et beaucoup de chrétiens ont leurs propres limites. Moi, je sais que Dieu veut que je fasse des choses pour lui, mais dès que c'est nous qui proposons certaines choses, ah, oh, non, je veux bien lire la parole de Dieu. Je veux bien témoigner si c'est un petit enfant, mais si c'est un adulte, ça, je peux pas. Je veux bien témoigner ici, mais si je dois apprendre une autre langue pour aller témoigner, ah non, ça, je peux pas. Et on se met des limites par rapport à ce que nous pensons sont nos limites. On se focalise sur le nous. Romains chapitre 8, versets 33 et suivants. Nous disent, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Et deux versets plus loin, le verset 37, il nous dit: Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Même la personne qui lutte avec l'insécurité ne va pas renier ce verset, que nous sommes plus que vainqueurs. Mais il aura du mal à mettre en pratique cette vérité pour lui-même. Et comment pouvons-nous être sous l'emprise de l'insécurité tout en croyant que nous sommes plus que vainqueurs? Rien n'est trop grand et rien n'est trop difficile, pas pour nous, mais pour Dieu. J'aurais pu écouter ce que disaient les autres et commencer à croire que je ne vaux rien, que je n'aboutirais à rien de bon, mais j'ai depuis longtemps compris que c'est plus important de savoir ce que Dieu pense de moi que ce que les autres pensent de moi, ou même ce que mes propres émotions et mon propre cœur me disent de moi. Je fais attention et je ne veux pas offenser les personnes autour de moi, mais leur approbation n'est plus si importante pour moi, comme ça l'avait été pour un certain temps. Rien n'est plus important pour moi que d'avoir l'approbation de Dieu. Alors quand Dieu me dit, je veux t'utiliser toi pour ma gloire, alors que j'aurai les mêmes pensées que Moïse, je ne suis pas apte, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas les bons talents, je n'ai pas les dons, je n'ai pas la parole facile, etc. Je veux être un David qui affronte le géant, malgré la colère de son frère, malgré les moqueries des soldats, et malgré tout raisonnement logique, par la foi, je suis plus que vainqueur, parce que rien n'est impossible à mon Dieu. Alors, mine de l'insécurité, tu peux aller exploser sous les pieds de quelqu'un d'autre. Moi, je préfère pas, mais. Mais au lieu de focaliser sur la personne que je pense être, je me dois de me focaliser sur la personne que Dieu veut faire de moi. On va terminer cette mine de l'insécurité avec le psaume 37, versets 3 à 6. Il nous dit: Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Mais ça commence avec confie-toi en l'Éternel. Alors avant que je passe au chapitre suivant, je voulais juste pour au moins commencer avec une petite introduction pour que vous ayez l'occasion d'y réfléchir pendant la semaine. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à cette mine de l'insécurité? Oui, Cézanne.
J'avais juste une réflexion ce matin, c'était sur le Genèse chapitre 1. Et j'avais pensé à ce que tu avais dit de cette idée de reconnaître quand on fait bien des choses. Et j'ai pensé que même après, qu'à la fin de chaque journée, Dieu a vu ce qu'il a fait, il a dit que c'était bien ce qu'il a fait. Et je trouvais ça intéressant du fait que même Dieu, il a reconnu, il est parfait, il ne pouvait que faire ce qui était bien, ce qui était bien fait. Mais même à la fin de la journée, il a déclaré, oui, ce que j'ai fait, c'est bien. J'ai pensé à ça aussi, c'est juste une façon de regarder, de faire le travail que Dieu me donne de faire dans cette journée, et qu'à la fin de la journée, je puisse dire, oui, j'ai bien fait, si c'est le cas.
Si c'est vrai que si c'était nous, s'il nous était impossible de ne pas être parfait tout le temps, le fait qu'on fasse quelque chose parfaitement, bah oui, bah c'est normal. Mais alors que, comme tu dis, pour Dieu, il dit voilà, j'ai créé, j'ai ceci, j'ai créé cela. Et comme il dit, Dieu vit que cela était bon. Et comme tu le dis, je pense qu'il le met là, il le met ses indications pour notre bien à nous. J'ai beaucoup de chrétiens qui disent, ah non, parce que la première mine que nous avons vue de l'orgueil, de la fierté, elle est tellement dangereuse. Il faut pas s'enfler d'orgueil, il faut pas se féliciter, faut pas trop féliciter l'autre, sinon ça va lui monter à la tête, etc. Et on ne parle pas de féliciter les autres autant que ça, même il s'est dit, on a parlé du fait qu'il faut savoir les encourager, etc. Mais pour nous, quand Dieu nous a aidés à bien accomplir, oui, il n'y a rien de mal à ce que on reconnaisse, tout en reconnaissant que si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, qu'on n'aurait pas pu accomplir cette chose correctement. Mais celui qui souffre de l'insécurité n'a pas de problème à reconnaître cela normalement. D'autres commentaires ou questions? On a ça de page pour la prochaine mine, qui est tout simplement les mines du compromis. Et de nos jours à notre époque, je crois que c'est une mine qui fait de plus en plus surface. Et il serait bien de l'étudier, de la voir. Parce que cette fois-ci, c'est. Bon. Pour beaucoup, c'est pour ça le danger. Pour beaucoup de chrétiens, même des chrétiens, à la surface, ils pourraient croire que tout va bien. C'est que si le fait qu'ils ont fait un petit compromis, justement, ils vont toujours dire un petit. C'est comme le petit mensonge. Comme si ce mot petit, ça enlève le fait que ce qui vient après, c'est quand même un mal. Et ils pensent que c'est une petite action de notre part sans grande conséquence. Et pourtant, juste un peu sous la surface, du dessus de la terre, dépasse cette mine que nous négligeons bien trop souvent dans le compromis. L'une des différences de cette mine avec les autres que nous avons vues jusqu'à présent est que celle-ci devient pire, de pire en pire, et donc de plus en plus dangereuse avec le temps, alors que les autres, en général, s'explosent et ont des conséquences immédiates de grande taille. Et c'est ça le danger avec le compromis, c'est que les conséquences visibles, immédiates, ne sont pas toujours si conséquentes, mais que cette première acte de compromis va toujours en entraîner un autre, puis un autre, et qui vont aller toujours en s'empirant, sans exception. Et nous savons, on est entre nous, que Satan est le roi du compromis, et que lui, ça ne le dérange aucunement qu'on n'adhère pas à 100% à sa volonté à lui. Ça le dérange pas. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on n'adhère pas à 100% à la volonté de Dieu. C'est tout ce qu'il demande. Il n'a jamais demandé à ce que on renie tout de Dieu et qu'on lui donne à Satan toute notre attention, tout notre cœur, tout notre amour. Il veut tout simplement qu'on ne donne pas tout cela à 100% envers Dieu. Donc s'il arrive à faire entrer juste un peu de compromis pour qu'on ne soit pas à 100% pour Dieu, ben il est content. Il est satisfait. Parce qu'il sait que ce 1% de compromis va grandir à 2%, va grandir à 5%, et va continuer à grandir. On sera peut-être jamais à 100% contre Dieu, mais on sera à 100% inefficace pour Dieu. Satan, j'en suis persuadé, aime planter tout un champ avec les mines, rien que du compromis, sachant qu'on ne marchera pas sur toutes les mines. On ne va pas accepter tous les compromis qui se tiennent devant nous. Il en veut juste qu'une seule pour commencer. Sachant que ce premier ne se terminera jamais avec ce compromis seul. Comme avec Ève dans le jardin, il va venir et poser ses questions. Hein, Dieu a-t-il réellement dit? Il n'est pas venu pour dire Dieu est menteur, mais est-ce que tu as vraiment bien compris ce que Dieu a dit? Et certainement, tu peux obéir tout en faisant ceci et cela en même temps. Il n'a pas dit, il ne faut pas que tu obéisses à Dieu dans toutes ces choses, mais tu peux obéir tout en prenant un peu de ce fruit aussi. Tu n'es pas en train de renier Dieu. C'est pour une bonne raison. Hein? Combien de fois est-ce qu'il va dire ça à des chrétiens pour le compromis? Beaucoup d'autres chrétiens le font. Ils doivent avoir raison. Tu es minoritaire, etc. Dans notre cœur, nous savons que tout ce qui nous éloigne de ce que nous savons être juste, de tout ce qui plaît à Dieu, devrait également être vu de notre part comme étant dangereux et donc à éviter. Mais parfois, il y a des choses qui sont un peu plus attrayantes. Et Satan soufflera à notre cœur, juste ce petit compromis, il est insignifiant, ça ne changera rien de ce que tu fais déjà. Tu peux continuer à faire toutes les autres choses, juste ce petit compromis. Ne veux-tu pas que les autres t'acceptent? Tu auras peut-être l'occasion de témoigner s'ils le font. Comme ça, hein, ils voudront bien t'écouter. C'est la même fois, combien de fois est-ce qu'on a entendu des personnes, on en reviendra plus tard, mais qui ont écouté à ce genre de compromis parce qu'ils étaient intéressés sentimentalement envers une autre personne qu'ils savaient ne pas être sauvés. Mais je pourrais leur témoigner. Et Dieu les aime, il pourra les aider à se convertir, et puis, etc. De la même façon qu'on dit qu'un voyage de 1000 pas commence avec le premier, de même le premier compromis mène toujours au plus grand et jamais vers une meilleure obéissance, ni envers une meilleure fidélité envers Dieu. On va s'arrêter là pour ce soir, je pense. Mais est-ce que vous avez des pensées, vous, à partager sur le compromis?
Personnellement, c'est moins évident que ma sécurité. Je sais que c'est quelque chose avec lequel je vais passer aussi. Dieu, est-ce que je vais souvent avec la famille? J'en ai pas l'impression. Donc, je suis intéressée de voir dans le pratique. Oui, 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 parce que je sais que ça va être pas mal dans ma vie, mais pour l'instant,
Est-ce que vous pouvez penser à des exemples bibliques de personnes qui se sont laissées aller au compromis.
il y a Saül, quand il a fait l'offrande, il a offert le sacrifice quand c'était à la place d'Élie de le faire.
Moïse, Moïse avec roche.
Ouais, quand il devait frapper le rocher pour faire sortir l'eau. Celui qui revient le plus souvent dans l'Ancien Testament, c'est quand c'est revenu, je crois, à 2 ou 3 reprises au moins, où le peuple ou le roi acceptait des dieux étrangers à travers les femmes et d'autres, et au lieu de, alors qu'il savait que Dieu voulait avoir aucune idole, aucun autre dieu au milieu de son peuple. Mais Salomon et d'autres qui ont accepté ces dieux, ces faux dieux, au milieu de, quand même, pour que leur femme soit contente.
Je viens de penser à Lot, quand tu as commencé à
Ouais.
descendre, il commençait à l'extérieur de Sodome, et petit à petit, il commençait à se rapprocher de la ville jusqu'à ce qu'il était juge et chef de la ville.
Et vous aurez l'occasion de penser à d'autres, mais comme ça, vous pouvez avoir une idée pour la semaine prochaine, ce de quoi nous allons parler. Et si vous avez des choses à partager aussi, ça vous donne une semaine d'avance. J'arrête.